Le besoin de recourir à, disons, la petite corruption monétaire varie. Si je suis, par exemple, un patron d'une grosse entreprise et que j'ai des accointances avec des hommes politiques ou que je milite pour un parti, je ne serai pas obligé de mettre la main à la poche à tout moment pour obtenir un service, car j'aurai la possibilité de l'obtenir grâce à mes connaissances. La petite corruption monétaire, c'est vraiment où on doit mettre la main à la poche pour obtenir un service, et le propre de ceux qui sont exclus de tous ces réseaux sociaux et politiques. Dans beaucoup de pays d'Afrique, l'anonymat est une source effectivement de discrimination, d'exclusion d'une certaine manière. On peut parfaitement parler de corruption au quotidien, à tel point que parfois ce qu'un observateur extérieur pourrait considérer comme étant de la corruption n'est plus perçu comme tel par les acteurs eux-mêmes.
Quelles sont les distinctions que l'on peut faire quand on parle de corruption?
Il faut distinguer entre ce qu'on appelle la grande corruption, qui brasse des sommes très importantes, qui touche des acteurs au niveau national, voire international, et certainement les élites, de la petite corruption quotidienne que nous avons étudiée, par exemple, dans le système de santé, à la douane, lorsqu'il s'agit de dédouaner un conteneur, ou à l'état civil.
Dans quelle mesure, justement, les services publics en sont-ils affaiblis? Je pense à la santé, l'éducation, le travail.
Par exemple, dans le domaine de la santé, désormais, si on veut obtenir le moindre soin, il faut passer par toute série de péages, de passe-droits, et tout soin est d'une certaine manière surfacturé à l'usager. Avec aussi des répercussions négatives, ceux qui n'ont pas les moyens, ils risquent souvent de tout simplement de mourir ou de ne pas avoir de soins de qualité.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une admiration, d'une certaine façon envers celui qui réussit, y compris grâce au pot de vin?
Oui, ce qui est condamné. Ce n'est pas tant les comportements, disons, illicites que la non-volonté de redistribuer les fruits de ce qu'on a obtenu, même de façon illicite. Celui qui a su faire partager son butin avec d'autres est d'une certaine manière vu avec bienveillance. Et il y a aussi toute une série de pratiques qui s'apparentent du cadeau ou de l'échange de faveurs, qui ne sont même pas considérées comme relevant de la corruption. Vous savez, il y a même une distinction qu'on fait dans plusieurs pays, qui est une distinction faite par les fonctionnaires eux-mêmes entre les postes juteux et les postes secs. Un poste juteux de l'administration, c'est un poste qui permet d'obtenir des moyens, de détourner de l'argent, de faire des affaires d'une certaine manière, de s'enrichir donc. Et les postes secs, ce sont les postes où en fait on ne traite que de la paperasse, où il n'y a pas de possibilité d'interaction, il n'y a pas de possibilité de s'enrichir. Donc on est véritablement dans un système qui accepte d'une certaine manière tout cela. Maintenant, cela n'est absolument pas irréversible. Oui.
Est-ce que des gens quand même se rebellent contre la corruption?
Pour le moment, il s'agit plutôt d'initiatives relativement limitées à des élites, à des personnes qui ont d'une certaine manière une certaine conscience, des intellectuels si vous voulez. Mais on voit bien que par exemple dans les pays où on met en place le système de radio rurale, qui est une opportunité pour les gens, les paysans, les éleveurs de s'exprimer, on voit tout de suite qu'il y a un ras-le-bol qui est exprimé par l'homme de la rue d'une certaine manière. Cela dit, toutes les formes de clientélisme auxquelles on assiste au quotidien ne vont pas être enrayées, éradiquées, tant que la pauvreté sera généralisée, tant qu'il sera difficile d'obtenir effectivement le moindre aide de la part de l'administration.